Daniel Kaplan.
Merci. Alors, nous, en fait, on fait comme Dominique Boulier, il l'a dit, donc on fait des cartographies, des controverses, et en particulier sur ce sujet-là, dans le cadre d'un exercice annuel de prospective que mène la FING que je dirige, qui s'appelle Questions numériques et qui invite quelques centaines de personnes chaque année à essayer de se poser ensemble les questions au croisement de l'innovation technologique, des mutations économiques, des transformations sociales, les questions auxquelles ils auront tous à répondre à leur manière. On pose des questions, on ne fait pas les réponses. Dans les années à venir, on les a fait travailler sur cette question qui est effectivement, est-ce que l'e-learning et les MOOC, on a mis ensemble, parce qu'on est d'accord avec Dominique là-dessus, on est bien dans la continuité d'une histoire en devenir, sont-ils une révolution dans l'éducation ? Alors, c'est un travail qui est en cours, donc je peux simplement partager un certain nombre de réflexions. La première, quand même, c'est évidemment partager l'effet de sidération qu'on vit là-dessus, dans tous les sens. C'est-à-dire, le premier, c'est qu'est-ce qu'il y a vraiment de neuf dans cette histoire ? Parce qu'effectivement, OpenCourseWare, donc les meilleurs cours du MIT, ça fait 10 ans maintenant, que le premier truc qui s'appelle MOOC a déjà 6 ans, je crois, et que, bon, voilà, il y a des choses qui y ressemblent depuis fort longtemps. L'e-learning ou ses incarnations précédentes, ça fait quelques décennies maintenant. Le deuxième, quand même, effet de sidération, et je pense, j'ai toujours en tête que je parle quand même à des gens qui enseignent le management, c'est le niveau d'ambition. Et même si on en rigole, on a l'habitude de rigoler du niveau d'ambition des entrepreneurs américains depuis les débuts de l'Internet. On dit, ils ont les cheveux qui enflent, etc. Bon, quand on est super ambitieux et qu'on rate son coup et qu'on fait 2% de l'objectif, on est peut-être le leader mondial quand même. Et donc, en fait, l'effet d'ambition, il produit des choses. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Hein, mais il a une valeur qu'il faut arriver à reconnaître, même si, évidemment, c'est tout à fait vrai, Philippe, Dominique l'ont dit, que ça ne se passe pas du tout comme ils ont dit, et que quand EDX a commencé en disant on aura 1 milliard d'étudiants, c'était le but hein, quand même. Évidemment, ils seront un peu loin de l'objectif. Mais bon, ça met dans un certain, ça met dans un élan, ça mobilise, ça engage, et ça produit même, dans un certain nombre de cas, des réussites. Alors même qu'on est effectivement dans un domaine... On peut prendre le suivant. Évidemment, je ne vous invite pas à lire tout ça, mais éventuellement, allez sur le blog d'Audrey Waters, qui s'appelle Hack Education. C'est probablement, en Amérique, la plus talentueuse des analystes critiques de ce qu'il se passe dans le domaine au croisement du numérique et de l'éducation, y compris parce qu'elle le pratique. Un peu comme Dominique, c'est là où ça devient intéressant. Et le deuxième paragraphe ici, vous avez une longue liste des questions qui aujourd'hui n'ont aucune réponse, ou en tout cas pas de réponse satisfaisante, qui sont complètement ouvertes, qui sont des questions, alors aux États-Unis en tout cas, très actives de controverses, ce qui veut dire que d'ailleurs on est bien au-delà de le MOOC, c'est bien pas bien. Au fond, rentrons dans le détail sur la propriété intellectuelle, sur l'intervention d'entreprises dont le cœur de métier, le cœur de business model n'est pas l'éducation, dont l'éducation est éventuellement un produit d'appel, sur l'impérialisme culturel, etc. etc. Voilà. Donc on est sur un sujet qui est entièrement ouvert et assez largement neuf. Alors, si on veut essayer de s'intéresser, c'est ce que moi je vais essayer de faire, c'est de nous dire, bon, quand même, c'est le signal d'un certain nombre de choses vraiment intéressantes. Dominique en a déjà cité quelques-unes, je vais essayer de ne pas les redire. Et je vais pour ça vous inviter à faire un petit pas en arrière et un petit pas de côté. Le pas en arrière, il est d'essayer de regarder le contexte de l'enseignement supérieur en général dans lequel ça se passe, qui est effectivement un contexte d'asphyxie financière du côté des fonds publics aux États-Unis, mais pas seulement, bien sûr. Un contexte de mondialisation et d'amplification de la concurrence dans le domaine de l'enseignement supérieur. Je rappelle que c'est aujourd'hui au Royaume-Uni considéré comme une des principales industries exportatrices, et c'est présenté et analysé sous cet angle, que le Politecnico de Milan est en train aujourd'hui de débattre, y compris au tribunal, de la décision de son nouveau recteur de considérer que l'ensemble des enseignements en master devait se passer en anglais, etc. Donc on est dans cet univers-là aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit effectivement d'être en concurrence avec les universités de l'autre bout du monde, les universités présentielles, physiques ou un peu des deux, évidemment. Et donc tous ces modèles se cherchent aussi autour de ça. Et on peut donc aussi analyser ce qu'il se passe aux États-Unis comme des stratégies de préemption d'un certain nombre d'espaces en investissant beaucoup, éventuellement en investissant beaucoup, un peu n'importe comment, dès lors qu'on capte assez vite des contenus, des profs, des contrats avec des universités, des étudiants, et puis on va essayer de les fidéliser en améliorant au fur et à mesure. Et on voit bien que déjà maintenant, par rapport au modèle pédagogique qui était effectivement d'une pauvreté assez insigne, même si les cours pouvaient être très bons des premiers temps, où il n'y avait même pas l'effort didactique et de découpage en grains, etc., que décrivait Dominique. En général, c'était vraiment, on va prendre des cours, on va faire des petits découpages en quart d'heure, et puis il y a des exercices qui sont des QCM, et puis c'est marre. On est déjà bien au-delà, 2 ans après le lancement de ces plateformes, elles se sont toutes lancées début 2012, les trois. Donc les choses progressent autour de ça. Donc il y a des stratégies de préemption des grandes universités, de nouvelles start-up avec beaucoup de fonds de capital risque, de grands acteurs technologiques, on y reviendra. Puis aussi d'autres stratégies, puisque c'est aussi le moment où, du coup, se revitalisent aussi les communautés de connaissances, d'open knowledge, d'open science, etc. On est, de ce point de vue-là, dans des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec la pédagogie, mais avec l'organisation industrielle d'un marché. Et d'une certaine manière, parlant à des enseignants en management, vous êtes pris, de ce point de vue-là, dans votre contradiction ou à votre propre piège. Parce que ce qui se passe, c'est effectivement des choses que, probablement, dans un certain nombre de cas, on décrit comme étant absolument géniales sur d'autres marchés. C'est en gros ce que Clayton Christensen va décrire comme le grand dégroupage, l'unbundling de l'enseignement, c'est-à-dire quand même cette idée que c'est le même qu'a les lieux, qu'a les profs, qu'a les contenus, qu'a les étudiants, qui fait l'évaluation, qui fait l'administration, c'est bien idiot. Si on découpait tout ça en grains, cette fois-ci, non pas de contenu, mais de valeur, et qu'on mettait tout, chacune de ces étapes en concurrence, et qu'éventuellement chacune avait aussi la liberté et la licence d'élargir ses marchés et de gagner de la productivité ou d'autres choses, voilà, des économies d'échelle, des économies d'envergure, ce serait vachement bien et ça fonctionnerait très bien. Et ceci est clairement dans ce marché-là en jeu. Il y a donc une première approche qui est de dire c'est un marché mondial comme les autres, il n'y a pas de raison que les règles qui s'appliquent aux autres marchés ne s'appliquent pas à celui-là. Et donc on y va complètement et on décompose, on saucissonne autant que possible la chaîne de valeur et on essaye de réintégrer ça d'autres manières. Et évidemment, on essaye de préempter un certain nombre de positions avec beaucoup de capital. Et c'est une approche gros sabots, mais qui a plutôt bien fonctionné à pas mal de startups américaines depuis les débuts de l'Internet. Et moi, je me souviens, comme d'autres, d'avoir ricané devant la piètre qualité de toute une série de grands sites de l'Internet. Yahoo, au début, c'était n'importe quoi. Bon, alors, ça n'a pas duré, mais vous voyez, ces générations de sites, bon, voilà. Et puis il y en a qui ont finalement assez bien réussi. La deuxième approche, c'est le pas de côté un petit peu, c'est que ça se passe à un moment où, en fait, j'ai l'impression d'un véritable renouveau de la volonté d'innover, cette fois-ci d'un point de vue pédagogique, dans tous les sens, à tous les endroits possibles, avec ou sans numérique. Et ça ne veut pas dire que ça s'était arrêté, mais ça veut dire, là aussi je suis un peu Dominique en disant, au moins ça a revivifié un débat, mais en fait ce débat il est en train de se revivifier de partout sur l'idée qu'on ne peut pas continuer... ni en termes de contenu, ni en termes de moment de l'éducation, ni en termes de lieu, ni en termes de méthode, ni en termes de protagoniste, à faire comme avant, que tout ça, il faut essayer de le revisiter cette fois-ci en se disant qu'est-ce que c'est que l'acte d'enseigner, qu'est-ce que c'est que le fait d'apprendre, et puis il se trouve qu'en plus on apprend des choses en matière de neurosciences, etc. Et donc tout se réouvre, et même des trucs très vieux, l'apprendre à apprendre, apprendre à enseigner, le maître ignorant, learning by doing, les projets, François Taddeï qui transforme des gamins de 8 ans en chercheurs, qui leur fait publier des articles dans des revues à comité de lecture, évidemment la gamification, puis la question est-ce qu'il faut apprendre à programmer, à coder, et puis le pair à pair et la classe inversée. En fait, tout ça est en train de revenir et de se réessayer, de se retenter. Et en même temps, d'ailleurs, on a aussi l'autre partie, la partie, on va le dire, IBM, la croyance renouvelée que par l'ordinateur cette fois-ci, par sa capacité à apprendre patiemment, à vous permettre de suivre différents chemins, par le fait qu'il capte plein de données, donc il va savoir avant vous et avant qui que ce soit que vous êtes en train de décrocher ou de ne pas comprendre, etc., que l'ordinateur va éventuellement nettement mieux enseigner. Tout cela est en train de se réouvrir aujourd'hui. Évidemment, dans une grande confusion, parce que c'est des sujets de débat, parce qu'effectivement, c'est compliqué de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas en matière d'enseignement. Mais on est dans un moment où, parce qu'on a peut-être des technologies plus accessibles, parce qu'on a probablement des systèmes qui arrivent à un certain nombre de limites et dont l'inadéquation avec les attentes, la réalité des situations professionnelles de demain ou d'aujourd'hui, etc., se fait de plus en plus sentir parce que justement il y a des stratégies industrielles. Tout ça fait qu'on est obligé de réouvrir cette boîte de Pandore. Alors, en revanche, si on considère ces deux aspects-là, donc cet aspect qui est vraiment des stratégies industrielles et une évolution du côté d'une structuration du marché, et puis de l'autre, la réouverture de toute une série d'alternatives, d'hypothèses et de possibilités d'un point de vue pédagogique. Ce qui saute forcément, c'est l'idée bien pratique du retard, qui est qu'en gros, il y a eu un espoir à un moment que cette transformation numérique de l'éducation se soit vite torchée. Et que, allez, ça va se passer comme ça, et puis d'ici une dizaine d'années, bon, c'est Gilles Babinet, il n'y a pas longtemps, qui a un peu oublié de se taire, en disant, ouais, bon, les universités, ce seront les abbayes de demain, c'est-à-dire dans pas très longtemps, elles seront désertées, puis on passera à autre chose, quoi. Hein. Non, cette transformation, elle va être très longue, elle va être très compliquée, elle va être faite de plein de tentatives et de réussites et d'échecs. Et donc, c'est à la fois une chance et évidemment une menace, comme d'hab, on pourrait dire. C'est-à-dire que quand même, elle se passe dans un système qui est d'abord hyper concurrentiel. Et donc, il va quand même y avoir des accidents industriels dans ce domaine-là. Hein. Et il va y avoir des recompositions, il va falloir regarder notamment, par exemple, moi je suis frappé de voir... où ça se passe, l'innovation pédagogique dans le supérieur, et que c'est souvent des toutes petites écoles. Alors, elles ont raison, elles n'ont pas tort, ils ont pas raison. Je ne sais pas sur 42 ce qui va se passer, mais moi, je suis un petit peu dans des petits groupes privés, la Web School Factory, etc. Voilà, ils commencent dès la première année, ils essayent tout, plein d'autres méthodes, des choses qui sont rarement osées dans des plus grandes institutions plus prestigieuses, alors qu'elles le pourraient sans doute un petit peu plus. Et donc, cette transformation va être complexe. Elle va laisser un peu aléatoirement des gens sur le carreau, pas seulement les plus petits, pas seulement les moins riches, mais probablement, en tout cas, ceux qui n'osent pas. Ça, c'est probable. Donc, ce que ça peut nous dire ici, et pour conclure, c'est que on est donc dans un moment où, en effet, on est un peu dans un jeu de dominos. C'est-à-dire, le MOOC, c'est... Bon, il se trouve que c'est celui-là qui est l'un des dominos qui tombe, et ça va en faire tomber un certain nombre d'autres, parce que ça réouvre le champ. Et que si on a envie de s'intéresser au lien entre l'enseignement et le numérique, il va falloir à ce moment-là, effectivement, aller un peu plus loin et vraiment utiliser massivement le numérique pour ce qu'il est. C'est-à-dire, et c'est vraiment ça au fond la pauvreté du MOOC, le MOOC considère, comme beaucoup, beaucoup de professionnels du numérique considèrent souvent, le numérique d'abord comme un moyen de diffusion. Hein, c'est la société de la connaissance, d'accès et de diffusion. Et depuis que les télécommunications sont télécommunications, même avant qu'elles soient numérisées d'ailleurs, les professionnels disent c'est un moyen de diffusion et les utilisateurs disent non, c'est un moyen de communication. Et quand les professionnels essayent de les forcer à en faire un moyen de diffusion, les utilisateurs disent non, c'est quand même un moyen de communication, entre nous d'abord. Et il y a des trucs extraordinaires hein, dans l'histoire des télécoms, il y a des mémos internes aux opérateurs télécoms qui essaient de voir comment on pourrait essayer d'arrêter ces détournements du dispositif où les gens téléphonent à d'autres gens de leur famille pour prendre des nouvelles, ça ne sert à rien. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de décourager ce type de détournement? Il y a des histoires, évidemment, les histoires du théâtrophone, etc., on les connaît, mais on les a connues sur le Minitel, on les a connues au début du web, et à chaque fois, les utilisateurs nous disent non, c'est pour faire des trucs entre nous. Alors, si on sait massifier ça, tout le reste suit éventuellement. Mais donc, est-ce qu'on peut utiliser le numérique à cette fin-là? Est-ce qu'on peut retravailler les communautés, l'horizontale, l'ascendant, la coproduction, etc.? Est-ce qu'on peut utiliser le numérique comme un moyen de production, en effet? Et je fais partie du Conseil national du numérique. On vient de faire une séance sur l'éducation autour du numérique et des élèves décrocheurs, comme on dit. Alors, je passe sur le fait que c'est un mauvais terme, etc. On va dire, allez, les élèves qui décrochent. À peu près toutes les expériences qui nous ont été relatées sur la manière dont on se servait du numérique pour faire raccrocher des élèves, c'était des expériences dans lesquelles on leur faisait un truc qu'on ne fait jamais faire aux élèves du secondaire, au bon, c'est-à-dire produire des trucs. Ah bah tiens, si vous alliez faire une enquête et nous faire un exposé, et puis nous raconter quelque chose, ou changer la page Wikipédia sur tel sujet, etc. Et incroyable, ça marche. Ça les fait raccrocher, ils apprennent plein de trucs, etc. Mais... l'idée qu'on pourrait même faire ça aux bons élèves, alors là, non, quand même pas, il ne faut pas exagérer. Donc, voilà, est-ce qu'on peut essayer d'aller vraiment chercher les vrais apports du numérique et dans le numérique, dans ce qu'il est pour les gens, dans ce qu'il est dans les entreprises, dans ce qu'il est dans la vie quotidienne des gens? Est-ce qu'on peut, effectivement, aller chercher la différenciation concurrentielle? Et une des manières de faire ça, c'est de dire, on prend MOOC et puis on se dit, tiens, si je retirais à chaque fois, si j'essayais de retirer aléatoirement une lettre, je ne fais pas le massif, ou je ne fais pas l'open, ou je ne fais pas le online, est-ce que je pourrais faire du massif pas online? Je ne fais pas un cours. Il y a plein de choses, si on commence déjà un petit peu à unbundler ce concept-là, et qui sont vraiment, vraiment des pistes intéressantes, me semble-t-il, pour tous les éducateurs et toutes les écoles que vous représentez ici. Il faut donc oser innover, il faut aussi oser se tromper, enfin faire toutes les choses que vous professez, en gros, hein, à peu près, aux étudiants. Mais avec l'idée que c'est le moment, en revanche, de le faire, parce que c'est la bonne chose de cette histoire, c'est qu'on est probablement en train d'entrer dans un moment très vif et très créatif d'innovation et de retour de l'innovation, et que probablement c'est par le supérieur que ça va commencer, et donc c'est le supérieur que ça va secouer en premier.